Europe 1.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, nous voyageons dans les endroits les plus étonnants de la planète et aussi les plus savoureux, quoique nous sommes au Japon. Et je dois dire, Emmanuel, vous allez peut-être me gronder, que franchement, je n'ai pas des très bons souvenirs gastronomiques au Japon. Je trouve que c'est souvent gras, souvent difficile. Je n'ai pas été renversé. Je trouve la nourriture japonaise au Japon moins bonne que la nourriture japonaise en France.
Et ben c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on en a une autre idée, parce qu'en France, on mange certains produits, on va manger beaucoup de sushi, de sashimi, donc ça, ouais. C'est pas gras. Et donc, quand on arrive au Japon, on est surpris, dérouté. Il y a beaucoup de fritures, il y a beaucoup de lamen, vous savez, c'est ces soupes très grasses. Donc, comme partout, il faut connaître les adresses, mais peut-être aussi connaître le sens caché des choses.
Encore ?
Mais oui, toujours.
C'est fatigant, ce pays.
C'est tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que pour apprécier les plats à leur juste valeur, vous savez, les historiens de l'alimentation disent que l'homme ne se nourrit pas que de nutriments, mais de symboles. Ouais. Eh bien, c'est particulièrement vrai au Japon. Mais pour le comprendre, il faut comprendre peut-être un peu la langue. Alors moi, quand je suis partie, j'y étais allée pour écrire un livre sur la cuisine japonaise. Et donc, j'ai travaillé avec une interprète. Et donc, j'ai pu échanger avec les Japonais. Et c'est là où j'ai basculé dans un autre monde en ayant accès à la pensée japonaise. Donc, même pour la cuisine, il faut avoir accès à ce qui se passe là-haut dans le cerveau.
Et donc, concrètement, ça donne quoi ?
Alors, par exemple, pour vous mettre tout de suite dans le bain, je vais vous citer Ryoko Sekiguchi, qui est une auteure japonaise, mais qui écrit en français, ouais. Qui vit à Paris, et dans un livre, Nagori, elle écrit qu'il y a plusieurs saisonnalités, par exemple, au Japon. Alors, il y a les primeurs, pour des fruits et légumes, les fruits primeurs, les fruits de pleine saison, donc ça on connaît, on a ça chez nous, et puis il y a le fruit Nagori. Donc ça, c'est l'arrière-saison. Elle écrit, je la cite, « Un fruit Nagori est en fin de saison, il est surmaturé, il nous dit au revoir jusqu'à ce qu'on se retrouve l'année suivante et on en a la nostalgie. »
C'est-à-dire qu'on mange un fruit pourri et
On mange un fruit un petit peu tard, alors surmaturé, on ne dit pas pourri, tout est question de terme, mais en tout cas parce que voilà, on est triste, il va nous quitter, mais le fruit lui-même est triste, il est nagori lui-même, d'attendre jusqu'à l'année prochaine, par exemple pour des cerises, jusqu'à revenir sur l'arbre.
Donc vous voyez, on le savoure en partageant sa tristesse.
Exactement. Ah, et oui. Parce qu'en fait, on a un rapport aux aliments qui est bien particulier.
J'ai une vieille banane dans mon sac, je vais essayer.
Voilà, elle est nagori. Est-ce qu'on est en fin de saison ? Mais c'est pas qu'elle est pourrie, c'est est-ce qu'on est en fin de saison de la banane ? Attention, c'est un rapport au temps.
Et elle nous dit au revoir, c'est ça.
Et voilà, elle nous dit au revoir.
Elle a plus lâché Philippe, la banane.
Vous savez, il y avait un film très, très beau qui était tiré d'un roman d'ailleurs, Les Délices de Tokyo, où la cuisinière, elle parlait à ses haricots. Elle les félicitait, elle les remerciait d'être venue jusqu'à elle. Donc voilà, c'est ça le Japon. C'est-à-dire que c'est un rapport aux aliments. C'est-à-dire qu'en France, on dit qu'il faut respecter le produit, mais au Japon, respecter le produit, c'est le considérer peut-être comme on le ferait avec une personne.
Ah bon. Mais alors, dans la vraie vie, quand on a faim et qu'on veut manger, ça donne quoi ?
Et ben, par exemple, les sushis, j'en parlais tout à l'heure, ça on connaît bien, on se les fait livrer au bureau ou à la maison en scooter le soir, bon, très bien. Et ben, au Japon, ça c'est impossible. Parce que le sushi, il doit être préparé, le riz du sushi, il doit être servi à une température exacte qui est proche de celle du corps. Et maître de sushi m'avait raconté, tenez-vous bien, qu'il avait cuit pendant 10 ans tous les jours du riz pour arriver à la cuisson et à la température parfaite avant de se lancer dans l'ouverture de son restaurant.
10 ans pour cuire du riz.
Pour cuire du riz tous les jours. Parce qu'on pense toujours que le sushi, c'est le poisson. C'est vrai qu'il faut connaître la maturité du poisson, savoir les découper, mais le riz, c'est encore plus important. Et un autre maître de sushi m'a dit qu'il goûtait l'eau de mer pour savoir le goût qu'elle avait, pour mieux comprendre le milieu dans lequel vivaient les poissons avant de les cuisiner.
Donc voilà. On pousse le raffinement
à l'extrême. On n'en fait plus les sushis de la même manière.
D'ailleurs, à propos du sushi qui doit prendre la température du corps. Moi, ça me fait penser à la Nyo Taimori. Vous savez, c'est la présentation des sashimi et des sushis sur le corps d'une femme nue qui est un vrai rituel aussi.
Ah bon ?
Oui, et parce qu'on dit que... Bien sûr, ça se fait maintenant, c'est complètement galvaudé en Occident parce qu'on a copié ce concept en pensant que c'était érotique. Mais en fait, c'est tout un truc très sérieux. Et effectivement, le fait d'être présenté sur un corps humain, ça donne au sushi, au sashimi, une température voisine du corps.
Ah oui, il y a ça. Et puis en plus, les sashimi, des bons sashimi, doivent être très transparents. Donc j'imagine qu'en plus on voit le grain de la peau. Donc, c'est tout un art.
Hein. C'est fou, ce pays.
Oui, ce pays est fou.
Bon, alors quand est-ce qu'on mange?
Oui, c'est ça. Parce que voilà, il faut se détendre un petit peu aussi. Alors bon, il y a évidemment des spécialités comme ça qu'on mange sans trop réfléchir. J'ai parlé des tempura, les takoyaki qui sont des boulettes de poulpe, spécialité d'Osaka, ou les yakitori. Alors on en mange beaucoup en France,
ouais,
ces petites brochettes.
Ça,
voilà,
ouais.
C'est connu.
Ouais.
Mais pour chaque spécialité au Japon, il y a la partie populaire, enfin il y a la recette populaire ou la version un peu luxe. Et les yakitori, quand on les mange version luxe, on va dans un restaurant qui cuisine tout le poulet et on va servir chaque partie séparément, le blanc, l'aile, la peau, le cou et même des brochettes de cartilage. Mmh. Et donc ça redevient une expérience esthétique de dégustation à travers évidemment les goûts.
Des brochettes de cartilage.
Des brochettes de cartilage de poulet, c'est délicieux. Mais voilà,
c'est délicieux.
C'est délicieux, moi j'adore le cartilage. Mais en fait, c'est pour expérimenter différentes textures.
Ah, oui.
Donc voilà, donc on se détend un peu, mais pas complètement quand même, hein, à un moment donné.
Longtemps,
non,
ouais.
Pas trop longtemps.
Et les rues de Shinjuku?
Alors, à Shinjuku, derrière la grande gare, là, il y a un petit ensemble de ruelles avec des restaurants de rue. Ça s'appelle Omoide Yokosho.
Ouais.
C'est littéralement l'allée des souvenirs. Alors, on comprend pourquoi quand on y est, parce qu'il y a les grands buildings d'un côté, et puis derrière, ce petit quartier traditionnel qui est resté authentique. Et donc là, on peut manger plein de choses comme l'anguille unagi. Et voilà, c'est une anguille. On la mange d'ailleurs en ce moment, pendant les fortes chaleurs de l'été.
Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Quel voyage !
Bon appétit.
Ah. Bon, on va repasser aux choses concrètes, avec Jean-Bernard Carrier, dans un tout petit instant.
Aussi, hein.
À tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 ? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.